meilleur de Sud Radio Trina Magdin.
Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour le premier numéro du meilleur de Sud Radio de 2021. Avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter une merveilleuse année, plein de bonheur pour vous et vos proches. Et j'espère du fond du cœur qu'elle sera meilleure que 2020. On ne change pas les habitudes, on va passer cette prochaine heure ensemble et réécouter des extraits des temps forts de cette semaine. Et on commence avec le Loft Music. Mardi, Yvan Cujus recevait Patrick Bruel, l'occasion pour l'artiste aux 15 millions d'albums vendus de se prêter au jeu du quiz. Et comme vous allez l'entendre, il a été bluffant.
Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdine.
Bon Patrick, passons aux choses sérieuses maintenant.
Ouais, il était temps. Hein.
Puisque là, ouais, Romy Chelminski est là.
Chelminski.
J'ai dit Chels.
T'as dit Chels.
C'est super dur. Moi qui m'appelle Cujus, je comprends pas les noms compliqués. Chelminski. Romy est là avec la guitare. Mais juste avant, parce qu'on va, bricoler des petites choses. On avait fait l'autre fois une petite... petit délire, c'est-à-dire on met le texte d'une autre chanson sur une chanson à toi, Patrick. Donc là, c'est le quiz, il va falloir juste que tu devines, que tu reconnaisses. Ça, c'est super simple.
Tu dois reconnaître quoi ?
Alors, c'est sur... c'est sur Alors Regarde.
Ah bon ?
Les paroles d'une autre chanson. Il faut que tu devines quelle chanson... du texte de quelle chanson elle est extraite. Elle arrive à 8h, personne n'est encore là.
Putain, pas mal. La chanteuse a 20 ans, comme ça, vas-y.
Elle ferme à double tour sa loge et la voilà, voilà.
Il a un air attendri, sourit à son miroir. Ça fait presque 20 ans qu'elle fait ça tous les soirs. Putain, c'est magnifique. Magnifique.
Alors, en fait, je sais pas si ça collabore.
Oh, bah, c'est magnifique.
Ouais, c'est, ça marche,
c'est chef-d'œuvre, chef-d'œuvre de Serge Lama, écrit par, par Alice Donna. Et vraiment, magnifique chanson. Et c'est, ça marche bien avec Alors Regarde.
Non, mais t'étais pas au bout de tes surprises. Alors, regarde, par exemple, celle-là. Mais celle-là, on l'avait faite déjà. Et ça fait partie des reprises que tu fais dans ton set, dans ton
D'accord.
concert. Les matins se suivent et se ressemblent.
Ah, salut les amoureux sur Casser la Voix, c'est bien.
Côté, on était pas fait pour vivre.
Ça suffit pas toujours de s'aimer bien.
De s'aimer bien, non, après.
De s'aimer bien.
Après, ça fait un
c'est pas bizarre. Mal, hein.
Il y en a plein qui marchent et il y a ces un beau jour ou peut-être une nuit.
Ouais, c'est presque les mêmes accords là, du coup.
Près d'un lac.
C'est les mêmes accords.
Je m'étais endormi.
Ah,
bah
non.
Etc.,
ah oui.
Etc. Il y a ça. Donc, ah, t'as tout trouvé, donc ça c'est facile. Et alors là ?
Il aurait fait la septième, là, on était,
ah oui.
on était bon. Hein voilà, attention maintenant, les choses sérieuses.
Première partie.
Ibrahim Malouf sort de ce corps.
Exactement. Première partie, donc t'as tout trouvé, mais bon, en même temps, je suis pas très étonné.
En même temps, c'était pas très compliqué.
C'était
voilà.
pas très compliqué, ouais. Alors là, je t'ai fait les quiz à la trompette. Il y a un truc. Je pense que tu vas aussi tout trouver. Peut-être la dernière, tu vas pas la trouver. Allez, on y va.
Allez, vas-y.
Et merci. Alors,
super.
Ça c'est fait.
Super joli.
Celle-ci, ouais, ça c'est. Deux notes et c'est.
J'habite seul avec maman.
Ça c'est fait.
Bah, vas-y, non mais joue-le, c'est joli.
Alors,
que...
non,
en fait, ce que je vais faire, je vais pas donner les réponses tout de suite. Comme ça, je permets à tes auditeurs et à Romy et à vous deux de vous exprimer. voilà, parce que c'est non, dommage
mais...
sinon.
Non mais il y en a d'autres, tu vois.
Mec, il a travaillé 8 heures chaque morceau et en 10
heures.
Secondes, je le ruine.
On s'est vu 10 minutes avant.
Celle-ci, Patrick. Troisième.
J'habite seul.
Thank you.
êtes allé chercher cette tonalité pour Hotel California?
C'est la trompette.
Ah, vous êtes des tueurs. Je me mets au piano, je pense, je vais prendre des accords normaux et boum, la bémol. Merci.
Attention, le plus gros challenge, c'est celle-ci, mais je pense que tu vas la trouver.
En quel ton?
Alors attends, parce que moi je suis en. Ça fait pour toi, ça c'est doit faire du mi bémol. Ba. Mais écoute celle-ci.
Mets-lui les harmonies avec, parce que...
Mais je sais pas ce que c'est non plus.
Sans harmonie, c'est difficile.
Et c'est super
difficile. Attends,
je donne des indices.
Est-ce que les harmonies que je te fais sont bonnes, par exemple?
Vas-y.
Joue-le.
Yes, c'est ça. Quand ma maman, elle reviendra... Jacques Brel.
Maman reviendra.
C'est pas la même tonalité,
mais
désolé.
Je connais pas la chanson.
Ben, je suis content parce que je savais que j'allais trouver une. Voilà, quand même. Parce que t'as fait des chansons de Brel pas connues, notamment Fernand.
Fernand, ouais.
Qui était Fernand, extraordinaire.
En 95.
Ouais.
Merci, c'était très belle. Quelle chanson merveilleuse.
Grave.
Ben, je connaissais pas cette chanson de Brel, tu vois, par exemple.
Alors là, maintenant, tu vas voir donc Romy, qui a fait le chemin inverse. Il s'est inspiré pour écrire des chansons, c'est un peu limite plagiat, moi je trouve. En fait, je sais pas ce que tu en penses, Romy, mais il a fait par exemple, on parlait des Beatles tout à l'heure de She's Gone.
Il faut que, faut que tu reconnaisses évidemment l'artiste, tu l'as trouvé, mais le titre original, parce que moi j'aurais donné un autre titre, par exemple, celui-ci, il s'appelle Regardez ensemble, ça fait.
J'adore,
le sommeil veut pas de moi, tu rêves depuis longtemps sur la télé, la déjà envahi l'écran, j'ai vu les hommes qui courent, une terre qui recule, s'appelle au secours des enfants qu'on bouscule.
Regardez,
alors regarde, regarde un peu.
J'adore, c'est extraordinaire. Ça marche de feu. Alors ça, c'est un vrai concept. Hein.
Peut-être que je bosse mes musiques finalement.
Donc le titre original, évidemment.
Ouais, ouais, c'est bien. Hein. Comme dit Guetta. Et alors, tu as aussi ce concept que je trouve très intéressant, c'est Queen Patrick. Parle-moi de Queen Patrick,
alors,
exactement.
Alors Queen Patrick, donc en fait, le titre, ça s'appelle. Comment je l'ai appelé celui-là? Ça s'appelle.
Alors je veux.
Je mords la poussière quand même. Attention, alors attends, ça demande un effort intellectuel et de coordination parce que c'est un peu aux choses pire. Attends. Alors, on va se quitter comme ça, comme des cons, devant le café d'en bas, comme dans une série B, on est tous les deux mauvais. Je te lis quand même, je t'aime. Je te lis quand même, je t'aime.
C'est super ça.
C'est trop bien.
C'est très très bon. Je te le dis quand même, je t'aime.
Et il y a quand même ce truc aussi qui a le black. C'est quoi exactement qui a le black?
Qui a le black? Donc ça fait comme ça. Alors attention, voilà.
On m'avait dit te pose pas trop de questions. Tu sais petit, c'est la vie qui te répond. À quoi ça sert de toujours vouloir savoir? Regarde en l'air et vois ce que tu peux voir. Qui a le droit?
C'est un très bon concept. Hein.
T'as vu, c'est super.
Il y a un côté. Après, il y a un côté extrêmement réaliste où tu te dis merde, j'aurais peut-être dû bosser un peu plus cette musique. Ou alors, mais c'est vrai que tu te rends compte la force de proposition qu'il peut y avoir sur un texte. Ah, ouais, Combien de musiques peuvent être différentes et marcher sur un texte.
Et il y a un autre truc qui est assez rigolo. On le disait tout à l'heure avec Roman, c'est que quand tu fais reconnaître une chanson juste avec la mélodie, c'est complètement différent. C'est-à-dire que dès que tu mets une harmonie, t'as souvent l'idée, la réponse qui arrive, tu fais qu'une mélodie, tu peux avoir.
Ah bah oui.
T'as Hotel California, voilà.
Mmh.
s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. Le jour est venu et moi aussi. Je voulais pas être le premier. Si on n'avait plus rien à se dire ici et si. Romy, faut pas être le premier. C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps rappelle le même crépuscule d'il y a 10 ans. Trottoir rusé par les regards baissés. Qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau. J'ai pas nagé le vent dans le dos. Dernière ligne droite, la rue sous flot. Combien seront là? 4, 3, 2, 1, 0.
Ça se passe comme ça.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Yvan Cujus et ses invités, rendez-vous de 20h à 21h en direct dans le Loft Music. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Philippe Rossi et toute l'équipe des Vraies Voix et leur débat sur la nouvelle James Bond Girl et avec l'invité de la matinale de Patrick Roger et de Cécile de Minibus, le sociologue Gérard Mermet. Restez sur Sud Radio.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. Comme tous les week-ends, c'est un plaisir de réécouter avec vous des extraits des émissions marquantes de cette semaine, comme lundi dans Les Vraies Voix. Lors de leur traditionnel tour de table de l'actualité, Philippe Rossi et ses chroniqueurs ont donné leur avis sur Lashana Lynch, la nouvelle James Bond girl dans le film No Time to Die, l'occasion de se pencher sur le féminisme et sur la virilité. Écoutez.
Non, non, moi j'aime pas vos règles à géométrie variable. À chaque fois, je me fais entuber par Philippe Davy, qui est une racaille.
Quand on parle du loup, on en voit la queue.
En général, les poils pubiens ne m'intéressent pas du tout.
Ah bon ?
Le tour de table.
De l'actualité.
Ah, une femme va incarner James Bond en avril. Elle s'appelle Lashana Lynch. Donc, elle incarnera l'agent 007 dans le film No Time to Die qui sortira en avril 2021. Et alors ça, c'est le tour de table d'actu de Philippe Bilger. Qu'en pensez-vous, mon cher Philippe ?
Alors, pour être sincère, j'ai eu l'idée de ce sujet parce que Elisabeth Lévy a fait ce matin une étincelante chronique sur ce thème-là, en disant bien sûr qu'elle trouvait elle trouvait ça que c'était un peu absurde, que on n'imaginait pas Monsieur Bovary, qu'on n'imaginait pas Phèdre en homme, ouais. Et au fond que le rêve de certaines femmes, c'était de devenir des hommes comme les autres. Moi, je voudrais aller un peu plus loin, si c'est possible. Je me demande si, au fond, derrière tout cela, il n'y a pas l'incapacité pour des femmes légitimement féministes de s'imaginer dans un univers autonome, comme si le seul salut pour elles dans le progrès, c'était d'aller chercher une sorte de virilité que, pour ma part, j'ai toujours trouvé détestable de la part de l'homme caricatural, et donc comme si les deux univers féminins et masculins, de la part du premier, étaient obligés de se confondre pour répondre répondre à la cause progressiste. Moi, je crois véritablement qu'il y a un monde féminin, un monde masculin qui gagnerait. Alors, le monde masculin, c'est déjà fait pour le pire ou le meilleur, mais le monde féminin gagnerait à trouver une véritable identité sans aller parfois chercher dans l'autre ce qui ne relève pas de cette identité qui me touche, moi, en tout cas. Alors, et je crois... Je crois beaucoup, en revanche, à la lutte pour un féminisme structurel. J'entends par là, pardon pour la banalité, l'égalité des salaires, tout ce qui fait que concrètement, dans la quotidienneté, femmes et hommes pourront s'adonner à la gratuité à partir du moment, évidemment, où le socle sera devenu très égal pour les deux sexes.
Alors, sachez que la moitié des Français approuvent que Bond soit une femme, et les sondés aimeraient également bien que Zorro soit interprété par une femme.
Ce qui va être le cas.
Ce qui va être le cas, évidemment. Françoise.
Moi, ça ne me choque absolument pas. Je comprends très bien ce que dit Philippe, effectivement, mais il y a des femmes agents secrets extraordinaires, sauf qu'on ne les connaît pas. Il y a des femmes justicières extraordinaires, sauf qu'on ne les connaît pas. L'histoire n'a pas retenu leur nom et ne retient jamais leur nom parce qu'on ne les voit pas. Moi, j'ai rencontré en Israël justement une chef des services d'infiltration. Je peux vous dire que James Bond à côté, c'est de la gnotte. Donc, mais sauf qu'on ne la voit jamais. Mmh. On la met jamais en valeur. Donc, le fait, je suis pas d'accord avec Elisabeth sur. Il s'agit pas de remplacer Phèdre ou Médée, c'est évident. En plus, elles ont une psyché féminine totalement, probablement encore plus pour Médée peut-être que pour Phèdre. Mais je pense que sur ces représentations du pouvoir, parce que James Bond, c'est le pouvoir en coulisses, mais c'est le pouvoir, sur ces représentations de pouvoir, puisque l'histoire quand même de la femme James Bond, la James Bond girl. Femme, c'est pas girl, justement.
Non, justement.
Femme. La James Bond femme, c'est que Daniel Craig a pris sa... le 007 a pris sa retraite en Jamaïque. Donc, voilà, le MI6 embauche une nouvelle
agent secret.
Et donc, moi, ça me gêne absolument pas de voir ces figures féminines prendre cette représentation-là, car dans la vie, ça existe, et dans la réalité, ça existe. J'aime beaucoup rappeler que nos amis kabyles ont été gouvernés pendant plusieurs années, plusieurs décennies, par une reine extraordinaire qui s'appelait la Kaïna, et qui était une reine, d'abord, qui gouvernait les tribus juives de Kabylie, et qui, plus largement, gouvernait, et qui était extraordinaire. L'histoire ne te retient jamais.
Et c'est
femmes-là.
Une formidable comédienne, la chaîne à Lynch.
Elle est géniale, elle est géniale. Et voilà, et donc allons-y sur ces personnages-là qui incarnent le pouvoir,
Philippe David, la question qu'on se pose, c'est quid des James Bond Girls? Parce que c'est vrai que James Bond, c'est aussi les James Bond Girls.
Déjà, elle ne peut plus s'appeler James, parce que James est un prénom masculin. Bah, oui. Donc déjà, c'est plus James Bond.
Non.
On est d'accord.
C'est vrai.
Non, mais il a tous les attributs.
Elle se serait appelée Mary, ça aurait été Marion Bond. Ça peut être un pronom masculin ou féminin en anglais. Donc,
on verra.
Et alors, déjà, la James Bond girl, alors, elle peut avoir des James Bond boys à la rigueur.
Elle peut aussi James être Bond. Homo et avoir
une
compagne.
Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs, je pense. Aussi, bien sûr.
On peut tout imaginer que James Bond soit gay.
Bah pourquoi pas. Mais James Bond, pour moi, c'est l'archétype. Alors, c'est l'archétype de l'agent secret britannique, très propre sur lui, très beau, masculin, etc. Et tu as dit une chose, Françoise, James Bond, c'est le pouvoir, non? Parce que dans les derniers numéros de James Bond, son chef, c'est toujours une femme.
C'est M. Qu'est-ce que c'est merveilleux.
Absolument. Judi Dench, c'est elle la chef de James Bond.
Je pense qu'on a revu combien Skyfall, 7 fois, 8
ils
fois.
Ils l'ont repassé il y a 2 mois.
Je me suis jeté dessus, évidemment, parce que la fin est quand même magnifique. M comme maman, enfin, c'est vraiment très intéressant.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et rendez-vous dès lundi, de 17h à 19h, avec Philippe Rossi et toute l'équipe des Vraies Voix. On continue avec un extrait de la matinale de jeudi. Dans le petit déjeuner de l'actu, Patrick Roger et Cécile de Ménibus recevaient Gérard Mermet, sociologue, directeur et fondateur du cabinet d'études Francoscopie, venu présenter son livre « Réinventons l'avenir pour un grand pacte de solidarité post-Covid », un livre dans lequel il regroupe l'ensemble des données et des tendances de l'état des lieux du monde, en particulier celui de la France. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdin.
Avec Gérard Mermet qui est avec nous ce matin, sociologue, directeur et fondateur du cabinet d'études Francoscopie. Merci d'être avec nous ce matin.
Oui, Gérard Mermet, Francoscopie, qu'on connaît bien parce que c'est un peu la Bible de l'évolution de notre société française que vous faites depuis une trentaine d'années, quoi, c'est ça?
Oui, alors la Bible n'exagère pas.
Non, mais c'est vrai.
Nous sommes dans une société laïque, je vous le rappelle.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous regroupez en fait l'ensemble des chiffres, des données et des évolutions et des tendances, quoi. Voilà, avec votre livre, c'est quoi? C'est un complément, hein, justement, de ça, en fait.
Bah, ce complément, c'est un espèce d'instantané sur l'état du monde et particulièrement l'état de la France, sur l'état des lieux. Oui. Donc sur l'état des forces aussi, avec à la fois les atouts et les handicaps de la France, qui sont nombreux dans les deux cas d'ailleurs, donc il faudra faire avec tout ça. Et puis une perspective plutôt optimiste en disant on va pouvoir s'en sortir, mais il va falloir réunir un certain nombre de conditions que j'énonce dans le livre.
Oui, c'est ça.
Et relever un certain nombre de
défis. 10 défis, hein, vraiment. Dans 10 défis.
Juste une chose, en fait, finalement, la base de tout, c'est que nous sommes dans un pays d'exception, avec un S.
Repaie d'ailleurs régulièrement de ces exceptions. Il y a une sorte de culte de l'exception française. Alors, ça nous a beaucoup servi dans le passé, au 19e siècle notamment. On a fait des choses exceptionnelles, avant aussi. Notre histoire le démontre amplement. Et puis, il y a aussi des exceptions qui sont plus ou moins passées de mode, voire un peu obsolètes, qu'il va falloir remettre en question aujourd'hui, oui.
Sur les syndicats, par exemple ?
Sur tout ce qui concerne le monde du travail, avec cette obsession de penser que le patron est l'exploiteur et l'employé l'exploité, de penser qu'on va pouvoir continuer de payer des retraites au même âge à tout le monde alors que l'espérance de vie augmente, alors que le nombre de cotisants diminue très largement. Enfin, une espèce d'irrationalité bien française qu'on voit d'ailleurs à l'œuvre aujourd'hui à l'occasion de cette crise sanitaire.
Alors, il y a quelque chose que vous connaissez particulièrement et que on a découvert aussi à travers cette crise du Covid, c'est le poids de notre administration, de notre système en France pour faire avancer normalement les choses ou parfois, comme c'est le cas, les freiner, quoi.
Oui, alors c'est effectivement en ce moment beaucoup le cas pour freiner ce développement et cette prise en compte de la crise sanitaire. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire qu'une crise peut en cacher une autre, et en l'occurrence beaucoup d'autres. Donc la crise sanitaire n'est qu'un des aspects multiples de la crise que nous traversons. C'est ce que j'appelle une grande transition dans laquelle nous sommes entrés. Alors espérons qu'après 40 années, il y a d'abord eu 30 années de glorieuses, vous savez, les 30 glorieuses après la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été suivies, selon moi, de 40 peureuses, parce qu'on s'est fait peur à peu de frais, alors qu'on n'avait pas vraiment de raison. Et là, on a quand même quelques raisons d'avoir peur, mais il faut surmonter cette peur et entrer, je l'espère, dans ce qui pourrait être les 10 courageuses, jusqu'à 2030 au moins.
Oui, c'est ça. Mais ces conditions qui font qu'on a cette administration telle qu'elle est aujourd'hui représentée, c'est une accumulation
C'est une accumulation. Bien sûr, ça n'a pas commencé en 2017 avec la dernière élection présidentielle. Ça fait au moins 30 ans qu'on dit que la France est suradministrée. D'ailleurs, on peut le démontrer facilement à travers les chiffres. Quand on l'a fait récemment en matière de santé, en montrant qu'il y avait beaucoup plus d'administratifs dans les hôpitaux et dans le système sanitaire français qu'il y en a en Allemagne, en Grande-Bretagne, etc. À qualité sensiblement égale, mais à coût plus élevé. Donc, il y a des choses probablement à revoir. Alors, peut-être que le recours à des cabinets américains va nous permettre de faire mieux.
Ça n'a pas l'air d'être bien parti pour l'instant.
Mais la bureaucratie française, c'est la mère des réformes. Quoi. Tant qu'on n'aura pas réussi à faire ça, toutes les décisions, aussi justes, aussi souhaitables soient-elles, seront diluées dans cette bureaucratie surabondante.
Mais est-ce qu'il faudra changer le caractère des Français qui ont tendance à être un peu contre tout ?
Alors c'est vrai que parmi nos exceptions françaises, il y a celle du français râleur, le fameux gaulois réfractaire dont parlait notre président, qui a déclenché beaucoup de polémiques. Mais sur le fond, je pense qu'il n'a pas tort, et l'histoire le démontre amplement. Alors c'est bien parfois d'être râleur, d'être un peu réfractaire contre le reste du monde, mais il y a des choses qu'on ne peut pas changer tout seul, et de moins en moins. Et la grande difficulté, effectivement, elle est que c'est un changement de culture. culture qu'il faut mettre en œuvre. Il faut changer à la fois nos attitudes, il faut changer nos habitudes, et ça, Dieu sait que les Français, même pour eux, c'est difficile, et il faut changer aussi nos certitudes, en tous les cas, certaines d'entre elles. Donc tout ça, ça va prendre un peu de temps, mais il faut y travailler, et puis il faut que les Français décident qu'on a besoin aujourd'hui, compte tenu de la complexité de la situation, de ce qu'on peut appeler une union nationale. Alors je sais que le mot effraie beaucoup de gens en France, notamment parmi dans l'opposition, mais sans cette...
On a l'impression au contraire que c'est des fragmentations de plus en plus fortes, quoi, non ?
Oui, alors fragmentation, c'est le fameux archipel français, on peut dire aussi fracture, mais alors on est dans une société où il y a à la fois des factures et des fractures. Alors les factures sont d'ordre économique, c'est la dette qui évidemment a beaucoup beaucoup augmenté en 2020, et puis les fractures, ce sont des fractures plutôt sociales entre... on va dire les riches et les pauvres, pour faire simple, entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés, etc. Donc cette incapacité à vivre ensemble qui fait que nous ne faisons plus société et que tout est à reprendre, finalement, c'est la raison de ce titre du livre. Réinventons l'avenir, parce que on en a grand, grand besoin.
Mais ça veut dire quoi ? Qu'il n'y a plus de valeur partagée ?
Oui, nous sommes à la fois dans un système où économiquement, c'est une anémie, et sociétalement, si on peut dire, c'est une anomie, c'est-à-dire une absence de système de valeurs communs partagés par un grand nombre de Français. Et donc, il va falloir recoller tous ces morceaux. Ça va demander beaucoup, beaucoup de travail, mais à l'exemple de ce qui se fait, on l'a vu hier aux États-Unis, ou ce qui va devoir se faire aux États-Unis, tout le monde occidental notamment est soumis à peu près aux mêmes pressions, aux mêmes difficultés.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Patrick Roger, Cécile de Minibus et leurs invités, rendez-vous lundi de 7h à 10h dans Grand Matin Sud Radio. Allez, restez avec nous, on va revenir très vite avec André Bercoff et ses invités Thomas Guénolé et Jean-Yves Le Gallou pour un débat autour de la mondialisation. À tout de suite.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. Merci pour votre fidélité. Avant de retrouver André Bercoff dans tous ses états, on va s'écouter un titre phare du groupe Boulevard des Airs en featuring avec Lounis, les grands gagnants du concours Centre Accord Sud Radio. Que de chemin parcouru pour Louis et Lorraine, le duo gagnant du Finistère. Voici Bruxelles.
Si je te connaissais pas encore, notre aventure vaudrait de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi mielleuse que je répugne désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait ? Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Tranquille pour qu'on le soit. Si on ne s'était jamais vu, je mettrais des fesses à ton insu. J'aurais le compliment facile, je serais l'homme fort et le docile. Ce dernier que je ne serai plus. Mon amour, je nous ai perdus. Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui,
toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles.
Bruxelles dans le meilleur de Sud Radio, titre phare de Boulevard Désert, en duo avec les gagnants du concours Centre Accord Sud Radio, Lounis. Et deuxième extrait de l'album des plus grands titres de Boulevard Désert, revisité par une pléiade d'artistes qui paraîtra en février prochain. Allez, on poursuit maintenant avec André Bercoff dans Tous ses états. Lundi, l'animateur recevait le politologue et essayiste Thomas Guénolé, venu présenter son livre noir de la mondialisation, et l'ancien député européen Jean-Yves Le Gallou. Et ensemble, ils se sont intéressés à l'espace Schengen et à la mondialisation. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Thomas Guénolé, politologue et essayiste, qui a été co-directeur de la formation de la France Insoumise, qui ne l'est plus du tout, qui parle de son livre, le livre noir de la mondialisation, encore une fois, que je vous conseille. Et je vous conseille aussi de lire les deux livres de Jean-Yves Le Gallou, L'invasion de l'Europe, les chiffres du grand remplacement chez Via Romana, le manuel de lutte contre la diabolisation de la nouvelle librairie. Jean-Yves Le Gallou, qui est énard, qui a été engagé au Front National et qui a fondé le mouvement national républicain. Juste un mot, il y a quand même quelque chose que le Covid a ressuscité, pour le meilleur ou pour le pire, ça c'est, ce sont les frontières. On ne parlait plus des frontières, les frontières on s'en fout, hein, c'est un vieux slogan 68 tard. Moi j'ai été très frappé hier, je rentrais voyage, j'étais à l'aéroport, je vous signale tout de suite, j'étais à Orly, aucun contrôle, rien, même pas prise de température, tout va bien, mais, je dis, il n'y a rien à cacher, je revenais du Portugal, pays européen, d'habitude Schengen, on passe sans aucun passeport. Rien là, contrôle des passeports. Tous, Français, Européens, tout le monde. Et j'ai demandé, je dis, mais attendez, je reviens du Portugal, je croyais que c'était en Europe. Non, oui, mais ça, Schengen, pour le moment, pas question, voilà. Donc, les frontières, on s'en fout plus, Jean-Yves Le Gallou.
Oui, alors c'est vrai que les frontières sont quand même revenues à la fois par la manière dont vous l'indiquez. On ne pouvait pas aller skier en Suisse, par exemple. Voilà, ça c'est aussi un rétablissement des frontières. Enfin, aussi, on pouvait aller skier en Suisse, mais on ne pouvait pas revenir. Non. Voilà. Bon, donc effectivement, les frontières ont été un petit peu rétablies. Et puis, on a vu quand même que chacun des États avait sa propre politique d'approvisionnement. On l'a vu pour les masques, sans doute, on l'a vu aussi pour les vaccins. Donc la structure territoriale reprend une certaine force. On a même vu d'ailleurs des frontières plus intérieures, puisqu'on a rétabli des frontières à l'intérieur de la France, avec des régions qui ont été traitées différemment les unes des autres. Et on a vu aussi, évidemment, de manière plus forte, ça, voilà, en Allemagne, où la gestion a été plutôt dans le cadre des Länder et non pas dans le cadre de l'État national. Donc les frontières sont revenues de ce point de vue-là. Bon, elle reste encore très peureuse à l'immigration, manifestement. Voilà.
Oui, ce qui ne manque pas de vous décevoir. Thomas Guénolé.
Oui, en fait.
Il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé là.
Pour vous répondre, et en focalisant sur la question de la mondialisation.
Ouais.
La mondialisation, c'est quoi? C'est un marché mondial sans règles de droit mondial. Voilà, si on doit résumer d'une phrase, la mondialisation, c'est ça. Et donc, l'absence de frontières, en particulier de frontières au sens de la réglementation des flux financiers, des flux économiques, du marché mondial du travail, ça fait des morts. Concrètement, ça fait des morts. Vous mentionniez mon livre tout à l'heure, le livre « Au nord de la mondialisation ». Je vous prends un exemple très simple. Depuis 1992, il y a eu 56 millions de morts de leurs conditions de travail. Quel est le rapport avec la mondialisation? Eh bien, c'est très simple.
Oui, parce qu'il y a toujours eu des morts avec les conditions de travail.
Sauf que, quand vous avez un marché mondial sans règles de droit mondial, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque un nivellement mondial par le bas des conditions de santé et de sécurité de la main-d'œuvre. Je vous prends un exemple concret qui nous concerne tous en tant que consommateurs, malheureusement. Foxconn, c'est la multinationale taïwanaise Foxconn. C'est le numéro un mondial des composants électroniques. C'est le sous-traitant passé ou actuel d'Apple, de Sony, de Nokia, etc.
De tous les GAFA, ou presque, oui. Enfin.
Voilà. Eh bien, vous avez une étude interuniversitaire qui a conclu que ces usines sont, en Chine, des camps de travail. J'ai bien dit des camps de travail. Et donc ça, pour le coup, c'est une conséquence très concrète du manque de régulation, du fait d'être dans une mondialisation. C'est même pas mondialisation sauvage, puisqu'il est inhérent à la mondialisation d'être sauvage. Vous voyez ?
Oui, enfin, c'est la mondialisation.
D'autre part, quand libérale, on parle et quand on parle de elle n'est même pas libérale au sens philosophique, soit dit en passant. Hein, parce oui, que, mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, sur la question de l'enjeu sanitaire, par ailleurs, depuis 1992, on a 256 millions de morts de maladies qui sont pourtant soignables. Je vous prends un exemple. Ce qui veut dire que la mondialisation, en tant que système de répartition planétaire des ressources, déconne tellement gravement que vous avez des gens qui meurent de maladies dont ils ne devraient pas mourir, puisque, je le répète, elles sont soignables, on a les ressources, c'est un problème de répartition des ressources. Par exemple, en 2015, la pneumonie, c'est un truc soignable, tout le monde est au courant de ça. En 2015, la pneumonie, elle a tué près d'un million d'enfants de moins de 5 ans. Et autre exemple, d'un pays dont on n'a probablement jamais parlé en France l'année dernière et cette année, qui est encore jeune cette année, la Zambie. Elle n'intéresse la mondialisation que comme exportateur de cuivre. Mais les profits du cuivre, ils sont accaparés par une poignée de multinationales, notamment Glencore, qui sera content d'être cité. Eh bien, conséquence, le système de santé zambien, faute de moyens, il est atrocement sous-développé. Résultat concret, la tuberculose, depuis 1992, elle a fait 200 000 morts en Zambie, alors que la tuberculose est soignable. Donc vous voyez, quand je vous dis que la mondialisation fait des morts de maladies, vous avez un cheminement concret qui vous permet de l'identifier. Et donc, qu'est-ce qu'il faut ? De la régulation, des contrôles, et en particulier le protectionnisme.
Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdin.
Et pour retrouver André Bercoff dans tous ses états, rendez-vous tous les jours de 12h à 14h sur Sud Radio, bien sûr. Allez, je vous propose qu'on réécoute maintenant un extrait du 10h midi de jeudi de Valérie Expert. Pour le traditionnel tour de table, l'animatrice et ses débatteurs sont revenus notamment sur l'invasion du Capitole par les supporters de Donald Trump. Une scène qui restera à jamais gravée dans l'histoire américaine. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Comment vous comprenez ce qui s'est passé ? On a traité Trump de pompier pyromane. Il a effectivement chauffé à blanc ses supporters. Il y a beaucoup de questions ce matin. C'est comment ces gens ont pu rentrer aussi facilement dans le Capitole ? Qui étaient-ils ? De quoi sont-ils le symbole ? Beaucoup de supporters de Trump rappellent qu'il y avait eu une manifestation au moment de l'élection de Donald Trump des démocrates. Jérôme Ripoul ?
C'est un coup de tonnerre dans la démocratie américaine et dans les démocraties. C'est du jamais vu. L'invasion d'une assemblée, c'est quand même exceptionnel. Le Congrès était inviolé. On voit des gens qui ont... Je ne sais pas si vous avez vu les images de dévastation du bureau de Nancy Pelosi qui apparemment a été vidé de ses contenus informatiques.
Il faut juste dire qu'il y a eu 4 morts, quand même.
Et qu'il y a eu 4 morts, contrairement à l'information qui a circulé jusqu'à ce matin, où il n'y avait
qu'une
femme. Ce qui était déjà en soi dramatique. Et c'est un coup de tonnerre. Pourquoi ? Parce que là, d'un seul coup, Donald Trump risque de devenir véritablement l'ennemi public numéro un de la démocratie américaine. Et que le capital qu'il avait accumulé pour reprendre la main sur le Parti républicain vient me semble-t-il, de s'effondrer en quelques heures. Ouais. Et puis surtout, alors, ça a un avantage, c'est que ça va resserrer la démocratie américaine et que les vrais démocrates, et j'entends démocrates au sens de ceux qui soutiennent la démocratie, vont sortir du bois. Mais quel coup de tonnerre, quel événement dramatique et incroyable.
Ouais. Éric Revel.
Oui, moi je partage tout à fait. Juste votre question, Valérie. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils ont pénétré aussi facilement ? Il faut savoir quand même que le Capitole, c'est un sanctuaire très symbolique pour tous les Américains.
Absolument.
Donc je pense qu'un sanctuaire, par définition, on ne le viole pas. Donc je pense que les forces de l'ordre n'étaient pas forcément en masse non plus là au moment des intrusions, parce que précisément, pour la plupart des Américains, pour la grande majorité des Américains, c'est impensable de pénétrer par la force dans le Capitole, qui est le sanctuaire de la démocratie, le symbole de la démocratie.
Oui, d'accord et pas d'accord, parce que quand il y a eu Black Lives Matter, il y avait des masses de policiers, on a revu des images, qui étaient là pour protéger le Capitole. Donc il y avait eu une anticipation à ce moment-là.
Oui, mais alors, moi, malheureusement, je rajouterais une couche sur Trump, hein, et je ne dirais pas sur l'ambulance, mais Trump, voyant ce qui se passait après sa déclaration devant la Maison-Blanche, où il a chauffé à blanc les supporters les plus extrémistes de son camp, il aurait dû lui-même, en tant que président des États-Unis, appeler les forces de l'ordre pour protéger le Capitole. C'est tout à fait effrayant. Ouais. Et moi, je vais vous dire une petite chose, c'est que je partage le point de vue de votre invité précédemment, c'est-à-dire que Trump, il avait un bon bilan. Oui. Il avait un bon bilan économique, il n'avait pas guerroyé sur la planète. Et là, il est en train de tout perdre, le capital qu'il avait. Il perd la Maison-Blanche, il perd la Chambre des représentants, il perd le Sénat, on l'a vu hier, ouais, ouais. Et il le doit aussi sans doute à son discours ultra-extrémiste d'avoir perdu la Géorgie, parce qu'il faut le faire, hein, de perdre la Géorgie, même si Carter était démocrate, était géorgien. Et puis je rajouterais, parce que je l'ai vu, mais je partage, il perd en même temps depuis hier soir, il perd la raison et il perd historiquement ce qu'il avait essayé de mettre en place. C'est-à-dire que Trump, depuis hier soir, à mon sens, a tout perdu.
Oui, Arnaud Benedetti.
Oui, je partage ce qui vient d'être dit de part et d'autre, c'est-à-dire que Trump sortait de cette élection, malgré tout, avec un capital politique qui était un capital politique non négligeable et avec un bilan, notamment sur le plan économique, qui était tout à fait favorable. En l'occurrence, il a soufflé sur les braises et il n'a pas su... ou voulu en tout cas maîtriser les troupes les plus extrémistes de son camp, et il se retrouve dans une situation où il a été lâché par tout le monde, et oui. Notamment, il faut
par
le rappeler,
par son vice-président,
avec lequel d'ailleurs il s'est brouillé dans la soirée, ce qui est un signal quand même très fort de l'effritement et de l'effondrement du trumpisme, dont on pensait qu'il allait survivre éventuellement à Donald Trump. Alors, ce qu'exprime Donald Trump va vraisemblablement sociologiquement continuer à survivre.
Le trumpisme
en tant que tel n'est pas forcément mort, mais en tout cas, Donald Trump, qui pouvait encore, disons, espérer jouer un rôle politique dans cette grande démocratie que constitue la démocratie américaine, me semble aujourd'hui assez écarté du jeu politique, éventuellement avec... peut-être des possibilités de poursuite.
De poursuite, ouais,
oui. 0826-300-300, si vous voulez réagir. Beaucoup de nos auditeurs sur Facebook estiment qu'on a volé cette élection à Donald Trump. Je rappelle qu'il y a eu 11 décisions de justice qui n'ont pas conclu à une fraude massive. Donc, et que Mike Pence, comme vous l'avez évoqué, son vice-président, a décidé de ne pas aller dans le sens de Donald Trump.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Valérie Expert et ses invités, rendez-vous dès lundi dans le 10h midi. Allez, on va revenir dans une poignée de minutes avec la chronique de Cédric Cizère qui a répondu, comme d'habitude, à vos nombreux messages laissés sur le répondeur de Sud Radio. Restez avec nous.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
De retour pour la dernière partie du meilleur de Sud Radio. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Avant de retrouver la chronique de Cédric Cizère, on va s'écouter un titre indémodable de Tennessee, écrit par Eric Stewart pour répondre à sa femme qui lui reprochait de ne pas lui dire assez souvent qu'il l'aimait. Il s'est classé numéro 1 en Irlande et au Canada et numéro 2 du fameux Billboard aux États-Unis. Voici I'm Not In Love sur Sud Radio. I'm Not In Love dans le meilleur de Sud Radio, titre incontournable de Ten CC, extrait de l'album The Original Soundtrack. Allez, on va terminer en humour avec la chronique de Cédric Cizère. Mardi, il a répondu comme toujours à vos messages laissés sur le répondeur de Sud Radio avec un témoignage très particulier de notre auditrice Nadine qui a laissé un message juste après s'être fait vacciner. L'occasion pour Cédric Cizère de faire un point sur le vaccin anti-Covid.
Il est avec nous comme presque chaque matin. Il vous donne la parole en diffusant bien entendu vos messages que vous laissez sur le répondeur. Et ça, il le fait avec beaucoup d'amour. C'est Cédric Cizère qui est avec nous.
C'est l'amour.
Bonjour Cédric.
C'est l'amour. Ça va ? Bonjour mes chers compatriotes. Alors tout le monde n'a qu'un mot à la bouche en ce moment.
C'est Cécile.
Cécile, ça c'est le deuxième mot à la bouche. C'est vaccin, bien sûr. Et c'est vrai que la campagne de vaccination, ça y est passée hier à la vitesse supérieure. 8 personnes vaccinées hier. Et ça c'est fort. Bravo. Pour que vous ayez une idée, en termes de vaccinés, on est derrière la Lettonie.
Ah oui.
En fait, on est aussi mauvais en vaccination qu'à l'Eurovision. Mais c'est pas grave, moi j'adore l'Eurovision, hein. On gagnera peut-être dans 30 ou 40 ans. Et parmi ces 8 personnes, une de nos auditrices a pris la résolution pour 2021 de se faire vacciner contre le Covid. Et elle m'a laissé un message juste avant la première piqûre, et puis un autre message après le vaccin, comme ça on verra s'il y a des effets secondaires ou pas. On écoute tout de suite le premier témoignage de Nadine.
Bonjour Cédric, c'est Nadine, 48 ans, de Grenoble, dans le département de la Misère. Alors moi, je suis pro-vaccin. Je suis vaccinée déjà contre la grippe espagnole, la rougeole asiatique. Je suis actuellement dans la salle d'attente du centre de vaccination, là. Et donc, je te laisse un message hein, quand c'est fait. Mais là, la salle d'attente est tellement vide que j'ai l'impression d'être à un meeting de Benoît Hamon.
Ah, effectivement, il n'y a pas grand monde. Alors, manifestement, alors maintenant, tout va bien pour l'instant. On va écouter après la vaccination de Nadine, on va voir comment elle va. J'espère qu'il n'y a pas d'effet secondaire.
Oui, Cédric, c'est Nadine, toujours 48 ans de Grenoble.
Ah oui.
Je viens de me faire vacciner il y a une heure et j'ai pas du tout l'impression qu'il y ait des effets secondaires. Alors je suis hyper contente, j'espère que ça donnera envie à tout le monde de faire comme moi.
Oui.
Bon, par contre, je vais aller prendre rendez-vous chez un autre docteur, parce que j'ai hyper mal aux testicules.
Ah oui,
effectivement, il n'y a pas d'effets secondaires, ça va, on est tous rassurés. On peut foncer. Après, c'est sûr que d'être parmi les premiers à se faire vacciner, c'est toujours un peu risqué. Ouais. Souvenez-vous, dans les années 80, le premier vacciné contre l'hépatite B s'appelait Roger Pourdalon. En tout cas, ça, c'était avant son vaccin, parce qu'après son vaccin, il s'appelait Amandalir. Voilà. C'est historique ce que je vous dis. On se plaint qu'il n'y a pas assez de vaccins, alors qu'en fait, on en a. Le vrai problème, c'est que personne ne veut se faire vacciner. Ouais. C'est typiquement français, ça. C'est comme dans les grandes villes, il y a 400 km de pistes cyclables, mais il y a 12 cyclistes. C'est ça le vrai problème. Et toujours à propos du vaccin, j'espère être tiré au sort. Franchement, j'espère être tiré au sort pour faire partie des 35 élus du peuple qui vont faire remonter les peurs et les questions éthiques que peuvent susciter le vaccin anti-Covid. En gros, être les pantins ou la conscience populaire du gouvernement. Et ces 35 personnes ne sont pas les bienvenues, notamment auprès de ceux qui, depuis mars dernier, sont devenus les nouvelles stars.
Bonjour Cédric, je suis Martin Achier, épidémiologiste que vous pouvez voir tous les jours sur BFM, sur CNews, sur C8, sur Cuisine TV et toutes les nuits sur Jackie et Michel. Qu'est-ce que c'est que cette idée de demander les avis de 35 personnes qui vont dire n'importe quoi sur le Covid? Moi, je m'en fous. S'ils me piquent la place à la télé, je vais les attaquer pour plagiat.
C'est sûr, il n'est pas content, Martin Achier, hein, parce que du coup, si on lui prend sa place, ça ne va pas. En fait, tous les Français attendent que le Covid n'existe plus. Les seuls qui n'ont plus du tout envie que le Covid s'arrête, ce sont les médecins de plateau de télé. Bah oui, eux, maintenant, ils préfèrent signer des autographes que des ordonnances. Ça les intéresse plus, tout ça. Et c'est vrai qu'on dit qu'on s'habitue à tout. Et on a la preuve avec le Covid, on s'est habitué. Bon, on est compte, les restos, tout ça, maintenant, on est habitué à ne plus y aller, c'est terrible. Et si on compare notre vie actuelle à celle d'avant mars 2020, c'est le jour et la nuit. Je m'en suis rendu compte quand j'ai reçu un message qui m'a fait prendre conscience d'à quel point notre vie actuelle est choquante et a changé.
Bonjour, je suis Jeannot, j'ai 36 ans, j'appelle de l'hôpital Velpeau. Je viens de me réveiller de 18 mois de coma et je vois qu'on doit vivre en portant un masque de chirurgien même tout seul dans un champ, qu'on nous demande de ne plus sortir de chez soi, qu'on peut plus aller au resto, ni à la salle de sport, ni au cinéma, et pire encore, qu'on peut plus rouler de pelle à une inconnue. Mais bon, le vrai truc qui m'a choqué à mon réveil, c'est qu'il n'y a plus Jean-Pierre Pernaut aux 13h, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Mais je venais de me réveiller du coma et quand j'ai vu ça, j'ai fait un malaise anal.
Vagal. Je crois que c'est vagal, Jeannot. Mais il y a eu le coma, il a peut-être perdu les mots, j'en sais rien.
Ah bah c'est sûr qu'en se réveillant, changement.
J'y ai pensé hier à ce message, je me suis dit c'est fou quand même, en 18 mois, c'est un truc de fou. Alors écoutez, peut-être qu'on s'en sortira un jour. Et excusez-moi, Jeannot, mais on a tout de suite un message de l'Elysée, de Matignon, on dit tout de suite. Ouais, je reçois un message sur mon tam-tam. Jean Castex veut s'adresser à la nation à propos, malheureusement, des salles de sport. J'ai peur pour elle.
Françaises, Français, le gouvernement vous confirme le maintien des fermetures des salles de sport. Grâce à nous, vous ne prendrez pas un abonnement pour ne jamais y mettre les pieds et payer 30 euros par mois jusqu'à votre décès. Mmh. Mais il semblerait que ça vous écorche la gueule de nous remercier, bande de pignouf.
Ça y est, il commence à perdre ses nerfs.
Mais il est très énervé, Jeannot. Moi, je pensais que ça le calmerait, les fêtes et tout. Et il est parti au Tchad. Pignouf, c'est violent. Pignouf, c'est très violent. Franchement, Patrick, vous n'utilisez pas le terme pignouf.
Non.
Je sais le terme, mais je ne vais pas le dire tout de suite.
En revanche, il paye son abonnement à la salle de sport.
C'est vrai.
Et il n'y va pas.
C'est très cher, je peux vous dire.
Voilà, merci beaucoup.
Je vous en prie. Je ne vais pas à la salle de sport.
Croyez que Jean Castex va à la salle de sport.
Non.
Il y allait avant. Et il aura le temps, d'ici un an à peu près, il aura le temps d'y aller souvent.
Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdine.
Cédric Cizère qui vous fait rire du lundi au mercredi à 8h20 dans le Grand Matin Sud Radio avec Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Merci à tous d'avoir été avec nous dans le meilleur de Sud Radio. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Soyez au rendez-vous. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Excellent week-end à tous à l'écoute de Sud Radio.